des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
And the norms and notions of what just is isn't always just is.
Au moment de l'inauguration de Joe Biden, beaucoup de gens ont été vraiment sont tombés sous le charme de la jeune poétesse Amanda Gorman qui a livré un texte qui s'intitule The Hill We Climb. Tout le monde était bien impressionné de sa prestance et ce texte-là, The Hill We Climb, est traduit donc dans différentes langues un petit peu partout à travers le monde. Sauf qu'il y a eu une problématique, un scandale, une controverse qui a éclaté dans les Pays-Bas parce que la personne qui devait traduire ce texte-là, ce poème, ben, il se trouve que c'est quelqu'un qui est blanc. Et ben Amanda Gorman, elle est noire. Puis là, il y a des gens, des militants qui ont commencé à dire ben non, ça peut pas être une blanche qui traduit le texte d'un noir, faut que ce soit une noire qui traduise le texte d'un noir. Ça a provoqué beaucoup de réactions à tel point que donc la personne qui devait traduire s'est désistée en disant oh, regardez là, ça a provoqué un tel tollé, je préfère aller planter des tomates plutôt que de traduire ce texte-là. Est-ce que c'est pas le signe d'une nouvelle forme de racisme? C'est ce que pense en tout cas Sylvain-Claude Filion, il est auteur, journaliste indépendant, et il a écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre dans la section « Faites la différence ». Ça s'intitule « Racisme 2.0 ». Sylvain-Claude Filion, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Ben, quand on dit à quelqu'un « Tu ne peux pas faire telle chose à cause de la couleur de ta peau », c'est du racisme?
Pour moi, oui. Essentiellement, vous aviez bien résumé l'histoire, c'est une journaliste du Volkskrant, qui est le quotidien national aux Pays-Bas. Elle se définit aussi comme une activiste, elle est la fondatrice de la plateforme Diversity Rules, et c'est elle qui a publié une lettre. Et ce geste-là est à mes yeux tellement contre-productif parce que au départ la traductrice, la poëtesse et écrivaine Marieke Rijnveld avait été choisie par Amanda Gorman
mais
pour
voilà.
traduire. L'éditeur était d'accord, tout le monde est content, tout va bien. Et là, cette activiste, ma réaction ce serait de quoi je me mêle?
Ouais. Alors il faut dire, il faut expliquer ce qu'elle a dit cette militante. Donc elle a dit Marieke ne peut pas traduire parce que elle ne comprend pas c'est quoi la réalité d'une femme noire à cause de la couleur de sa peau. En gros, oui. Je résume là. Mon hollandais est pas très bon.
Elle a dit que ça suscitait de la douleur, de la frustration et de la colère.
Ouais.
Et elle souligne en plus que Marieke Rijnveld est non-binaire, comme si ça avait rapport. Et quand on s'introduit comme ça dans un dossier où on n'a pas d'affaires, pour moi, c'est une forme de vandalisme intellectuel.
Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je croyais que les gens qui étaient antiracistes était vraiment antiraciste, c'est-à-dire qu'il dénonçait la discrimination, il dénonçait le fait que certaines personnes n'aient pas des opportunités professionnelles à cause de la couleur de leur peau. Mais si on dit à quelqu'un « tu ne peux pas traduire ce texte-là parce que tu es blanc », ben on fait de la discrimination. On est en train d'enlever un gagne-pain à Marieke, à cette écrivaine hollandaise, là.
Oui, puis qui est pas sortie d'une boîte de Cracker Jack là, cette jeune fille là. D'ailleurs, elle avait été choisie parce qu'elle avait connu la célébrité très jeune, comme Amanda Gorman. C'est pour ça qu'il y avait un match parfait. Elle a eu le Booker Prize l'an dernier. C'est pas de la
tarte. Le International Booker Prize, ouais.
Et là, c'est un peu le système de la police de bien-pensance qui vient s'infiltrer dans des choses où on n'a pas d'affaires. Écoutez, moi, ça me fait penser à la petite controverse qu'il y a eu récemment avec Maxime Olivier Moutier et son éditeur. Et ça me fait même penser aux employés de Hachette à New York qui ne voulaient pas qu'on publie la biographie de Woody Allen. Et ce qui est le plus désolant, c'est que comme l'éditeur néerlandais qui avait embauché Rijnveld et comme Hachette, les gens se mettent à genoux. Alors
voilà.
que quand quand une Janice Dell, qui je le répète, et je pense qu'elle est plus activiste que journaliste, qui parle de sa douleur, écoutez, franchement, là, est-ce qu'il y a de quoi souffrir parce que la traductrice n'est pas blanche? Moi, je pense que c'est aussi une absence d'empathie, et ça, c'est une caractéristique de la génération des enfants rois.
Ben ça, vous allez loin quand même, Sylvain Claude. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, cette génération qui est habituée donc à ne jamais se faire dire non, leur moindre caprice, dès qu'ils expriment le moindre caprice, les autorités obtempèrent. Ben ça nourrit ça. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit qu'il y ait une éditorialiste qui dise, moi, ça me fait de la pépène que le livre, que le texte soit traduit par une femme blanche, puis tout le monde se met à genoux. Donc, je veux dire, ça lui donne un pouvoir complètement démesuré à cette femme-là.
Oui. Je vais préciser le lien que je fais avec les enfants rois, parce que je vais recevoir des roches. C'est quand tu as une enflure de mots, comme la douleur, ou des arguments comme « elle ne peut pas avoir le ressenti », c'est de l'enflure verbale, là, ces mots-là. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la même race que ça... C'est même pas censé paraître dans un livre. J'ai fait... écoutez, Dany Laferrière. Oui. Y a une dizaine de livres ont été traduits en anglais. La plupart, ça a été fait par David Hommel, qui est un Américain établi à Montréal depuis longtemps. Oui, oui. C'est lui qui a écrit la version « How to make love to a Negro ». C'est lui qui a traduit « L'énigme du retour ». Ce type-là est un homme blanc. Est-ce qu'il y a eu un drame? Non.
Mais non. Mais non.
Parce que c'est de la littérature.
Oui, puis aussi parce que bon, moi, ma mère a été traductrice pendant des années. Elle traduisait du français de l'anglais au français. Et je veux dire, elle a fait des études, elle est allée à l'université. C'est un métier être traducteur. Donc, à la rigueur, on aurait pu reprocher à Marika de ne pas être une traductrice, de ne pas avoir fait des études. J'aurais compris, j'aurais dit ben oui, ok, c'est parfait. Prenez quelqu'un qui est un traducteur. Donc, prenez-vous-en à elle pour ses compétences. Ne vous en prenez pas à elle pour la couleur de sa peau.
De sa peau, exactement.
Voilà. Et aussi que bon, vous avez écrit un livre, la biographie donc de Béatrice Picard. Ben vous êtes un homme. Ben là, comment ça, vous êtes un homme? Vous avez écrit la biographie d'une femme? C'est quoi ça cette affaire-là, Sylvain Claude?
Oui, puis j'ai écrit d'ailleurs dans le texte qui a paru aujourd'hui, ça va être quoi les prochaines dérives, là? On va dire qu'un homme ne peut pas traduire un livre écrit par une femme. Ou, écoutez, j'ai même un autre exemple qui m'est venu en tête. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait la traduction française d'une biographie de Shania Twain.
Édition
7 jours à l'époque.
Ouais.
Et là, je pense que la plupart des gens le savent, Shania Twain a des origines autochtones de la tribu Ojibwe. Imaginez qu'en 2021, on me propose de faire la traduction. Moi, je craindrais qu'une personne autochtone des Premières Nations dise « Je n'ai pas le droit de traduire la biographie de Shania Twain parce que je ne peux pas ressentir le ressenti des Autochtones. »
Oui, ou même, regardez Michel Jean, là, qui connaît vraiment un succès extraordinaire et tout à fait mérité avec son livre Koukoum. Bon, ben, je veux dire, il est de descendance Innu. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que quand les livres, et c'est peut-être même déjà fait, là, les livres de Michel Jean vont être traduits, je sais pas, moi, en allemand ou en japonais, qu'il faut que le traducteur ou la traductrice soit aussi d'origine autochtone. C'est-à-dire, sort pas. Et c'est aussi, le problème, Sylvain Claude, est plus large que ça. C'est que il y a un mouvement au cours des 50 dernières années ou des 60 dernières années où on a dit, on arrête de regarder les individus selon les étiquettes. On arrête de regarder les individus selon la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle et tout ça. On ne les considère que comme des individus. Or, ce à quoi on assiste depuis les derniers mois, les dernières années, c'est le mouvement inverse. C'est le retour des étiquettes. On n'est plus considéré comme un individu. On est considéré comme, bon, toi, t'es un gay, toi, t'es non-binaire, toi, t'es d'origine autochtone, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Mais c'est le contraire du mouvement d'émancipation qu'on a connu les dernières années.
Bon, je pense qu'il faut préciser que c'est une frange activiste. ce sont toujours eux qui font le plus parler d'eux dans les médias. Vous savez qu'il y en a au Québec, on les voit, c'est toujours les mêmes qu'on voit défendre la cause. Mais
ils sont souvent invités à Tout le monde en parle.
Oui, ouais, ici première, disons-le. Oui. Mais le problème, c'est cette espèce de militantisme à outrance qui fait que, dans le fond, ces gens-là exercent du racisme. Ce qu'on appelle le racialisme, pour moi, c'est simplement du racisme. Tu vas venir me dire que j'ai pas le droit de traduire un livre parce que je suis blanc, ben t'es raciste. C'est aussi simple que ça. Écoutez, que Victor Hugo soit blanc, noir, ou qu'il soit gay, hétéro, ou aux plantes vertes, moi, je m'en fous, c'est Victor Hugo qui m'intéresse.
Oui, ben vous citez Hugo, ce serait intéressant aussi de citer par exemple Alexandre Dumas, qui était, et ça peu de gens le savent, qui était lui-même, je pense qu'il était Carteron, c'est-à-dire que il était descendant de métis, et en fait on le voit quand on regarde les photos, les portraits de l'époque,
oui, oui.
Mais c'était pas un homme blanc de plus de 50 ans, hein, il avait des racines, je pense c'était antillaise ou bon, martiniquaise, quelque chose comme ça là, ouais.
Oui, je pense que c'est son père qui était à moitié créole, et ou sa mère peut-être.
Son père est né à Saint-Dominique, en fait, qui est maintenant à Haïti. Donc, voilà, je suis en train de le vérifier au moment où on se parle. Mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on finit plus aussi. Donc, pour traduire Alexandre Dumas, il faudrait trouver quelqu'un qui a exactement le même profil génétique que lui. Donc, tu le confies pas à un homme blanc. Tu le confies même pas à un homme qui est métisse. Il faut que tu le confies à un homme qui est Carteron, c'est-à-dire qui a des ancêtres mélangés. Donc, un père métisse qui s'est marié avec une femme blanche. Je veux dire, on n'en finit plus.
Non. Non, c'est quand on pousse le raisonnement à outrance, on n'en finira jamais. Et moi, ce qui me frappe, c'est que le fameux poème d'Amanda Gorman, de Hill We Climbed, c'est une ode à la réconciliation,
oui.
À la lumière, à un monde meilleur. Et qu'est-ce que ça déclenche? Parce qu'écoutez, on s'entend bien là, que s'il n'y avait pas eu le texte de Janis Dill dans le Volkskrank, il n'y aurait jamais eu de controverse.
Jamais. J'en parle aussi dans ma chronique de ce matin. Je conclue en disant, parce qu'à un moment donné dans son texte, elle dit au lieu de recourir à l'épée, on devrait bâtir des ponts. Ben, je veux dire, bâtissons-en des ponts. C'est certainement pas en faisant ce genre de controverses et en faisant de l'assignation raciale qu'on va réussir à régler ce genre de situation. Sylvain Claude, ben moi, je vous encourage à continuer à écrire des lettres dans la section Faites la différence, Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est très bien argumenté. Ça a été un plaisir, en plus, de vous parler. Moi, je vous suis sur Facebook. On pense souvent pareil, mais là, de vous parler de vive voix, ça a été vraiment chouette.
Ben, je vous remercie beaucoup, Sophie. Moi aussi, je suis enchantée. Alors, à une prochaine.
Merci beaucoup, Sylvain-Claude Filion, donc, qui est auteur, journaliste indépendant et qui donc signe cette lettre dans la section « Faites la différence ». Ça s'intitule « Racisme 2.0 ». Et ben, c'est comme ça qu'on va se quitter. Je veux remercier Jean-François Roy qui est à la mise en onde, à la réalisation, William Boivin et Luc Fortin à la recherche. Et puis, ben, c'est comme ça que ça se termine. On est mercredi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube.